France Culture.
France Culture, l'esprit public. Astrid de Villaine.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'esprit public. Aujourd'hui, entre deux budgets 2026, la reconfiguration politique s'accélère. Nous serons avec l'essayiste Raphaël Yorca, la directrice éditoriale de l'Institut Montaigne Blanche Le Ridon, l'historien Baptiste Roger Lacan et le constitutionnaliste Julien Jeannet. Une émission préparée comme chaque semaine par Anne-Claire Bazin, réalisée et mise en onde par Julien Mouellet.
Oui, je vous le dis très clairement, je suis candidate à l'élection présidentielle. Et cette candidature, c'est un geste d'amour, un acte fort d'amour pour la France, parce qu'on ne peut pas aimer son pays et le laisser s'abîmer ainsi. Vous savez, moi, ça fait des années maintenant que je sillonne à longueur de semaine ce territoire. Je vais même des fois dans des villages où on me remercie en me disant « mais aucune personnalité nationale n'avait jamais pris le temps de venir nous parler ». Et j'ai vu trop de Français marcher la tête baissée. J'ai entendu trop de Français m'expliquer à quel point ils se sentaient humiliés, méprisés. Le mépris, ça revient tout le temps et ça, je ne le supporte plus. Alors, je veux aider ce pays à relever la tête. Je veux aider à réparer ce qui a été cassé, à réconcilier, à apaiser, à protéger. Et je le dis aussi parce que je suis une écologiste, mais aussi une maman. Je me battrai pour chacune et pour chacun d'entre vous. J'y mettrai toutes mes forces, mais je le fais aussi pour nos enfants et pour vos petits-enfants.
La secrétaire nationale des écologistes Marine Tondelier, le 22 octobre dernier, en plein débat budgétaire, elle se lance sur TF1 au journal télévisé de 20h face à Gilles Boulot, 18 mois avant le premier tour prévu en avril 2027. En 2020, Jean-Luc Mélenchon avait usé du même procédé, mais en novembre, 17 mois avant le terme. 16 mois avant le terme, c'est l'hebdomadaire Marianne qui s'interrogeait la semaine dernière en une. Faut-il débrancher Raphaël Glucksmann, un candidat non déclaré à la présidentielle, mais qui refuse la primaire à laquelle Marine Tondelier, elle, aimerait participer. Et puis un ancien président de la République, déjà condamné deux fois définitivement devant les tribunaux nationaux, qui sort de 20 jours de prison dans une troisième affaire, la Libyenne, pour laquelle il a fait appel, avec un livre en forme de testament, le journal d'un prisonnier, qui se hisse parmi les meilleures ventes, mais reste encore derrière Astérix. En plus de se comparer sincèrement au capitaine Dreyfus, injustement condamné parce que juif, il rebat les cartes du jeu politique actuelle, en actant une potentielle alliance avec l'extrême droite, pendant que son fils, Louis Sarkozy, se présente, lui, dans la ville de Menton, sous étiquette LR et face à une candidate du RN. De quoi déboussoler son camp et activer une nouvelle fois le clivage entre ceux qui ne disaient déjà pas non, ceux qui font semblant d'hésiter et ceux qui ferment définitivement la porte à une alliance qui semble funeste pour la droite républicaine. Divisée en trois. C'est ainsi que le groupe LR se porte à chaque vote fondamental à l'Assemblée. Entre les pour, les contre et les abstentionnistes, déboussolés. Comme lors du projet de loi de financement de la sécurité sociale, adopté mardi soir à 13 voix près. Chez les députés de Laurent Wauquiez, 18 l'ont soutenu et 28 se sont abstenus. Mais au Sénat, à majorité LR, vendredi, on a rejeté le texte. Il reviendra à l'Assemblée mardi prochain. Reste ensuite le budget de l'État, plus coriace encore. Des parlementaires éreintés qui tournent en boucle sur les frais de l'État, cherche des recettes, négocie des dépenses et semble se couper un peu plus du pays, alors même qu'ils entendent faire le bien de ce même pays. À l'extérieur, la course des petits chevaux a débuté. Des émissions se disent déjà en route pour 2027. A-t-on déjà démarré aussitôt ? Le jeu est ouvert. Il faut dire que la période est extraordinaire. Un budget défendu 149-3, des forces politiques forcées de se parler, aucune majorité et donc des alliances baroques. Le Premier ministre a fait le choix de se tourner vers le Parti Socialiste pour le budget de la Sécu, mais quand sera-t-il pour le budget de l'État ? Et plus généralement, ce moment parlementaire préfigure-t-il de nouveaux clivages politiques dans une reconfiguration qui s'accélère en vue de la présidentielle ? Bonjour à vous Blanche Le Ridon.
Bonjour.
Merci d'être là, directrice éditoriale de l'Institut Montaigne, spécialiste des questions démocratiques et institutionnelles, enseignante à Sciences Po. Face à vous, Julien Jeannet, bonjour.
Bonjour Astrid.
Merci d'être là, constitutionnaliste, professeur de droit public à l'Université de Strasbourg. Raphaël Yorca est avec nous ce matin. Bonjour à vous.
Bonjour.
Essayiste, expert associé. associé à la Fondation Jean Jaurès. Vous êtes co-directeur de l'observation Marque imaginaire de consommation et politique dans cette même fondation. Et je cite votre dernier livre, Le roman national des marques, en 2023 aux éditions de l'Aube. Et enfin, j'accueille Baptiste Roger Lacan. Bonjour, bienvenue.
Merci
d'être avec nous, historien chargé de recherche à la Fondation Napoléon, directeur de l'ouvrage collectif Une nouvelle histoire de l'extrême droite, paru cette année au Seuil au mois d'octobre. Merci à tous les quatre d'être avec nous pour l'Esprit public. Nous sommes en direct et merci à vous de nous suivre comme tous les dimanches sur France Culture. Julien Jeannet, je me tourne vers le constitutionnaliste que vous êtes. Comment observez-vous la période, le vote de ce budget de la Sécurité sociale 149.3 et avec les voix de certaines oppositions? Et puis, je demanderai à tous les quatre, est-ce que aussi c'est finalement une victoire de la méthode Lecornu?
Alors on est frappé tout d'abord par une forme de cacophonie assez globale et assez lente et longue en réalité. On avait déjà au début de cette période, après l'été, l'impression que se rejoueraient peut-être les drames de l'automne 2024. En l'occurrence, on a l'impression que non seulement les drames se rejouent, alors on n'a pas encore la fin de l'histoire, mais qu'en réalité en plus, il y a beaucoup d'énergie qui est déployée au sein des assemblées parlementaires et notamment à l'Assemblée nationale pour un résultat qui reste encore évidemment imprévisible à ce stade. Donc on a l'impression d'une cacophonie, on a l'impression que le vote de cette semaine, dont les journaux et les médias ont rendu compte en insistant sur son importance, à raison sans doute, est moins perçu pour ce qu'il a lui-même, parce qu'il faut toujours rappeler quand même que cette loi de financement de la sécurité sociale n'a pas encore été adoptée. Mais que l'accord autour de ce texte, à ce stade-là, laisse à penser que l'on peut imaginer la possibilité qu'il soit adopté in fine, enfin reste quand même l'autre objet absolument essentiel, à savoir la loi de finances, le budget de l'État. Et à ce propos-là, eh bien, nous n'avons encore aucune certitude. On peut imaginer que si le PS a accepté de bouger, si différents partis ont accepté de bouger sur la loi de financement de la sécurité sociale, les choses finiront par fonctionner un peu plus tard. Mais on est quand même frappé par l'idée selon laquelle la méthode Lecornu est intéressante, pour l'instant semble produire des résultats relativement positifs. Donc la méthode, pour rappel, qui a consisté à non pas à affirmer comme un matamore d'emblée son intention d'imposer sa volonté aux assemblées parlementaires, mais son intention affichée de laisser les parlementaires travailler en disant d'emblée son intention de ne pas recourir au 49.3, intention qui ne le lie pas constitutionnellement, et donc in fine, on pourra en reparler peut-être, il aura l'occasion, c'est vraiment, il en a besoin d'utiliser ce 49.3, mais enfin, in fine, la méthode Lecornu a relativement fonctionné, et je suis assez frappé par le fait que les parlementaires ont été capables de bouger, d'évoluer, ce qui va plutôt dans la bonne direction. Mais enfin, on est loin d'être sorti du guet.
Blanche Leredon.
Oui, je vous rejoins un petit peu ce que vient de dire mon camarade. Ce vote ne mérite ni excès d'honneur, ni indignité, selon moi. Il y a eu des réactions qui étaient parfois très virulentes, parfois très, très, très élogieuses. Je crois qu'on est quelque part entre les deux, et ce qui s'est joué après la bataille des votes, c'était véritablement la bataille des récits. Avec un récit qui, d'un côté, parlait de compromission, de trahison, et puis de l'autre, un récit qui plaidait pour la responsabilité, et qui surtout, et c'est là où je pense que c'est très important d'insister là-dessus, rappeler ce qui était dans le texte, parce qu'on s'est tellement focalisé sur les arbitrages politiques, sur les votes des uns et des autres, que parfois on oublie ce qu'il y a dans ce projet de loi de financement de la sécurité sociale, et au-delà de la suspension de la réforme des retraites, on a aussi l'amélioration des retraites des femmes qui ont eu des enfants, on a la création d'un congé de naissance, on a le plafonnement des arrêts maladie, un certain nombre de mesures qui sont plébiscitées par les Français quand on les interroge sur ces dispositions. Donc, ne pas oublier que ce texte-là, il porte aussi un certain nombre de mesures et que c'est de ça dont, d'abord et avant tout, on devrait discuter. Mais je rejoins, moi je suis un peu sidérée quand j'entends des gens qui, il y a encore quelques semaines encore, déploraient le fait que cette France était ingouvernable et mentionnaient allègrement nos voisins européens qui parvenaient à trouver des compromis et c'est formidable, et qui là disent que finalement tout ça, c'est pas vraiment du compromis, c'est pas terrible et ce texte est indigent, etc. Non. non, il y a quand même eu un pari qui a été fait, c'était celui de faire adopter un budget de la sécurité sociale 149.3. C'est un pari qui a été tenu. Alors bien sûr, le texte est imparfait, mais je n'ai entendu personne dans la classe politique prétendre qu'il était absolument parfait, qu'il n'y avait rien à réécrire. Je n'ai pas vu Monsieur Lecornu se précipiter sur un journal de 20h mercredi soir pour fanfaronner, pour dire à quel point sa méthode était formidable. Tout ça s'est quand même fait dans une relative humilité. Personne ne prétend avoir bouleversé le système parlementaire ou politique français, mais on avance pas à pas. On est dans ce que le député Brun, député socialiste, un changement progressif de mœurs politiques et parlementaires, de légères inflexions qui nous permettent effectivement progressivement, dans quelque chose qui n'est pas parfait, qu'il va falloir poursuivre avec effectivement cette étape du budget de l'État qui va être infiniment plus difficile à franchir, mais néanmoins un vote, alors 13 voix c'est pas beaucoup, mais mine de rien ce sont les votes pour qui l'ont emporté. Et dernier élément, on a quand même assisté à une certaine forme d'émancipation aussi du Parlement de ses tutelles, émancipation d'un certain nombre de députés LR et Horizon qui n'ont pas suivi massivement les consignes qui avaient été adressées par leur chef. Vous avez un bon tiers des députés LR qui ont voté pour ce budget de la sécurité sociale, ce qui n'est pas anodin parce que c'est ça qui a permis au vote de basculer avec une majorité favorable, alors même que, souvenez-vous, leur président Bruno Retailleau avait parlé d'un hold-up social fiscal démocratique et parler d'un budget socialiste invotable que l'histoire jugera sévèrement. Donc une émancipation de ces députés-là. Émancipation aussi des députés Horizon qui, 9 sur les 36 députés, ont voté également pour le budget. Émancipation aussi, d'une certaine manière, du Premier ministre puisque, pourquoi est-ce que ce vote a abouti? On le sait très bien, c'est parce qu'il contient la suppression de la réforme des retraites qui était la seule réforme emblématique du président Macron.
Raphaël Yorca.
Alors de mon côté, en observant l'actualité parlementaire de cette semaine et peut-être plus encore le récit médiatique qui en a été fait, il m'est revenu une réflexion qu'avait proposée Julien Gracq dans un recueil d'entretiens où il disait il y a deux types d'écrivains. Il y a les écrivains myopes, ceux qui ne voient pas de loin et donc qui s'intéressent aux détails, aux minuscules, aux chatoiements. Il y a les écrivains presbytes, qui au contraire, ceux qui ne voient pas de près et qui donc s'intéressent aux grands ensembles, aux panoramas, aux grands traits, etc. Alors personne n'a raison ni tort. Ce qui est intéressant, c'est que les deux voient des choses différentes. Et il me semble que c'est un peu la même chose pour les observateurs politiques. L'observateur presbyte, cette semaine, a beaucoup disserté sur l'avènement ou non d'une culture du compromis, ou à l'inverse, continuer de pointer une sorte de chaos parlementaire permanent. Il me semble que c'est dans cette catégorie aussi qu'on a beaucoup dépeint Sébastien Lecornu en une sorte de Premier ministre providentiel. C'est-à-dire qu'on a beaucoup loué, effectivement, sa méthode, son habileté, qu'on a décrit, j'ai trouvé ça assez génial, de méthode du conseiller général, hein, au goutte à goutte, il va y négocier et convaincre chaque commerçant, chaque porte. Mais comme le relevait assez malicieusement le journal L'Opinion cette semaine, à 13 voix près, il aurait subi certainement les appels à la démission et à la remise en cause assez générale de cette même méthode. Donc ce qui nous rappelle quand même une sorte de contingence de la vie politique est assez délicieuse. L'observateur myope, quant à lui, et pour qui j'ai beaucoup de sympathie, en témoigne peut-être mes épaisses lunettes, lui qui s'intéresse aux choses de près, il a peut-être vu trois choses émerger dans cette semaine un peu agitée. Premier élément, le désarroi stratégique d'Édouard Philippe, que je trouve assez étonnant en réalité, qui a été décrit, je trouve que le mot est excellent de la part d'Olivier Faure, en ingénieur du chaos, ce qui, quand on est une figure du bloc central, est quand même ne manque pas de sel. On se rappelle de son appel à la démission du président de la République il y a quelques semaines. Et effectivement, il semble avoir fait le calcul que le budget pouvait être pour lui un accélérateur de positionnement à droite, mais quitte à décontenancer une bonne partie de ses soutiens. J'en veux pour preuve le baromètre Ipsos pour la Tribune publié ce matin, qui mesurait la satisfaction de l'accession à l'Élysée. Et Édouard Philippe perd 6 points en seulement un mois, ce qui est quelque chose d'assez remarquable. Deuxième élément, le volte-face des écologistes. 26 abstentions sur 38 députés, ce qui a effectivement permis au vote d'être passé. Alors même que le 16 octobre dernier, 35 députés avaient voté la motion de censure de la France insoumise réclamant la tête d'un Premier ministre qui était décrit comme illégitime. Il y a tout un tas de hashtags qui ont émergé, qui ont fleuri sur les réseaux sociaux. Plus jamais EELV. C'est une nouvelle donne pour les Verts, c'est-à-dire que cette fois-ci, ils doivent goûter le goût de la trahison. C'était plutôt la condition d'existence des socialistes à leur tour d'assumer cette nouvelle étiquette. Et dernier élément, l'espère de grand retour de Laurent Wauquiez. On l'avait trouvé humilié il y a 7 mois, hein, à la bataille pour la présidence des LR. Il avait seulement récolté 25% de ses propres adhérents. Et le voilà, effectivement, Blanche le rappelait, qu'il arrive à emporter avec lui un tiers de son groupe, alors même que le propre patron des Républicains avait effectivement déclaré ce budget socialiste et invotable. Donc tout ça pour dire que peut-être qu'il valait mieux cette semaine-ci être un observateur myope pour observer de très près ce qui s'était passé. Mais effectivement, le presbyte n'est jamais loin.
Baptiste Roger Lacan.
C'est pas facile de passer après ces trois très bonnes analyses. Moi, je dirais peut-être que, alors, d'une part, il y a quand même une chose qui est marquante, c'est qu'il semblerait, on va voir si ça va se confirmer, c'est qu'un seul vote, il va y en avoir d'autres jusqu'à la fin de l'année, mais il semblerait que le Parlement se soit enfin emparé du pouvoir qui lui tend les bras depuis 2022. C'est-à-dire que l'élection législative de 2022, elle marque une rupture dans l'histoire de la Ve République. On dit beaucoup que le parlementarisme résumé de la Ve vient de la Constitution et vient aussi d'une sorte de miracle électoral, si on peut dire, c'est-à-dire que de 62 à 2022, à l'exception de l'élection législative de 1988, on a toujours eu des majorités absolues. Donc on a toujours eu un bloc qui gouvernait avec des députés qui, a priori, étaient alignés et donc n'avaient pas énormément de ressources pour affirmer l'autonomie de l'Assemblée face au gouvernement. On a un peu connu l'épisode des frondeurs sous François Hollande et là, effectivement, les outils de la Constitution ont permis justement d'encadrer ce qui posait problème dans la majorité. Mais la situation qu'on a eue à partir de 2022 et qui a été renforcée en 2024 était très neuve parce que pour la première fois depuis un demi-siècle, on avait un Parlement qui avait théoriquement du pouvoir, qui pouvait faire des choses, mais qui apparemment ne savait plus quoi en faire. Moi, c'est ça qui m'a frappé, notamment dans la séquence 2022-2024, c'est qu'on avait des députés qui semblaient perdus face à la quantité de pouvoir qu'ils avaient. Un gouvernement qui a su plutôt bien en profiter, qui a multiplié les items constitutionnels. On a découvert plein, alors pas Julien, mais je pense qu'autour de la table les autres, on a découvert plein d'articles de la Constitution qui permettaient d'encadrer l'action des députés. Et donc là, il semblerait que, à force d'empêcher quand même le gouvernement et la majorité, enfin le gouvernement et le bloc central de faire ce qu'ils veulent, à force de tordre le bras d'Emmanuel Macron et de ses proches, le Parlement est obtenu de Sébastien Lecornu des concessions massives sur sa capacité à gouverner et qu'il se soit emparé de ce résultat. Effectivement, si le budget avait été refusé, je pense que ça aurait été considéré comme un échec. On aurait eu l'impression qu'à nouveau, le Parlement était incapable de gouverner. Et je pense qu'en fait, ça marque peut-être un deuxième tournant. Il faudra voir si ça se confirme à nouveau dans le temps. C'est que peut-être que cette séquence qui s'ouvre maintenant marque le retour de la force de gouverner au Parlement. Je m'explique, la force de gouverner, c'est le titre d'un très beau livre de Nicolas Rousselier qui montre que entre la fin de la Troisième République et le début de la Cinquième République, on voit une bascule dans l'histoire parlementaire de la France et dans l'histoire de la démocratie en France. C'est-à-dire que la force de gouverner qui était détenue par la Chambre des députés et qui donnait la primauté au Parlement dans l'action publique et dans la direction des affaires a progressivement été sortie de la Chambre pour être donnée au gouvernement et à l'exécutif. Il faudra voir si ça se confirme. Étant donné les sondages actuels, il y a des chances quand même qu'en 2027, on se retrouve à nouveau avec un Parlement sans majorité, auquel cas, on va devoir continuer à fonctionner comme ça. Le fait que, quoi qu'on pense de ce budget, mais qu'à la fin, on arrive à en voter un, ce qui n'est vraiment pas évident, et dans des circonstances, dans un contexte international qui est quand même extraordinairement périlleux, dans lequel on ne peut pas se permettre de renvoyer l'image d'un pays sans direction, est quand même plutôt une bonne nouvelle de ce point de vue-là.
Julien Jeannet, un mot peut-être du calendrier qui nous attend. Mardi, donc, ce projet de loi de financement de la sécurité sociale adopté d'un fil à l'Assemblée, rejeté au Sénat, revient à l'Assemblée. C'est la fameuse navette, hein, puisque pas de 49-3, tout se déroule comme d'habitude. Est-ce que, sans faire de Madame Irma, est-ce qu'il a des chances ou pas d'être adopté, ce projet de loi de sécurité sociale, et surtout, de financement de la sécurité sociale, et surtout le projet de loi de finances, si mes informations sont exactes, le gouvernement, s'il veut déposer une loi spéciale, a jusqu'à vendredi 19.
Alors, pour la question de la loi de financement de la sécurité sociale, on peut être modérément optimiste en considérant que si un accord a été trouvé à quand même quelques voix près, cette fois-ci, le Sénat refusera sans doute et l'Assemblée nationale devrait de nouveau tomber d'accord sur le fait d'adopter ce texte qui, pour mémoire, se contente de fixer des objectifs, des grands principes, mais qui lie moins en réalité l'action politique de la France pour l'année 2026. Donc c'est un premier aspect. Ensuite, il y a surtout la suspension dont Blanche parlait tout à l'heure de la réforme des retraites, mais il semble quand même qu'aujourd'hui il y a une majorité de députés pour accepter le principe en réaction à ce qu'expriment les Français et les partis politiques. L'autre question, ça va être évidemment la question du budget. Alors là, la question du budget, que va-t-on faire? Qu'est-ce qui va se passer? On ne peut pas être Madame Irma, en l'occurrence, je crois. Je crois vraiment que y a différentes options dont on parle beaucoup depuis septembre dernier. Il y a évidemment la possibilité des ordonnances de l'article 47, dont on a beaucoup parlé récemment. La possibilité, vous savez, qui n'a jamais été utilisée pour l'instant, depuis 1958, pour le gouvernement d'imposer finalement le budget par voie d'ordonnance, donc d'une manière très particulière, qui soulèverait plein de petites questions juridiques techniques dans le détail desquelles je ne rentrerai pas ici, mais qui, sur le fond, donnerait une impression d'unilatéralité, une impression de violence institutionnelle. Ça irait vraiment à l'encontre de tout ce qu'on entend depuis plusieurs semaines et mois, à savoir l'idée de, à vous, mesdames et messieurs les parlementaires, de vous saisir pleinement des pouvoirs qui sont les vôtres. Ça risquerait d'ailleurs de conduire à la chute du gouvernement Le Cornu, puisque vous le savez, le 49-3, on ne sait pas ce que ça peut donner, mais l'une des deux voies possibles au terme d'un vote de ce type, c'est quand même la chute du gouvernement, et dans le contexte actuel, il semble que cela soit un risque qu'il faille prendre au sérieux, avec ensuite, derrière, la question majeure, qui est la question de savoir, en cas de chute du gouvernement Le Cornu, s'il faut dissoudre. La loi spéciale elle-même, dont on parle beaucoup, pour mémoire, pour nos auditeurs, c'est une loi provisoire qui est adoptée. Lorsque la loi de finances normale n'a pas été adoptée avant le 1er janvier, pour faire en sorte que l'arrêt de l'État ne soit pas constaté à partir du 1er janvier, qu'on puisse continuer à lever des impôts et à payer les fonctionnaires. En gros, on autorise temporairement l'État à percevoir les impôts existants et à assurer la continuité des services publics. Ça n'est pas un budget complet, on connaît ça, puisque en janvier dernier, il y a exactement un an, nous avons, face à l'impossibilité qui a été celle du Parlement d'adopter un budget dans les temps normaux, dû compter sur une loi spéciale, qui est une loi extrêmement brève, hein, formellement, qui a été adoptée massivement par les parlementaires, et tout permet d'imaginer que, en l'occurrence, les parlementaires aujourd'hui tomberaient d'accord pour adopter une loi spéciale si cela devait se poser. Alors il y a des questions techniques soulevées par certains de mes collègues constitutionnalistes sur les délais, les questions précises, mais in fine, quand même, l'esprit de la grande décision du Conseil constitutionnel de 1979, lorsque, à l'époque, la loi de finances pour l'année 80 avait été très largement censurée par le Conseil constitutionnel, eh bien c'est l'idée selon laquelle la continuité de l'État doit permettre de faire en sorte de garantir un budget minimal qui est en gros une copie de celui de l'année précédente, en écho au 12e provisoire qu'on connaissait sous la 3e République. Et donc, en l'occurrence, il n'y a pas de raison d'imaginer que ça ne pourrait pas se faire. La dernière question très rapidement qui pourrait se poser, c'est la question quand même du 49-3. J'en parlais tout à l'heure. Certes, Sébastien Lecornu a placé au cœur de son programme politique sa volonté de ne pas y recourir. Mais enfin, in fine, si jamais il se trouvait que c'était la seule manière de permettre à la France d'avoir un nouveau budget, il n'est pas du tout impossible qu'il décide de dire, bon, mais finalement, j'ai essayé de faire 100, ça n'a pas marché, je l'utilise, je prends mon risque, je prends le risque de tomber, je mets toute mon autorité politique dans la balance, et j'espère que vous allez me suivre à cet égard. Et sur ce point-là, la question de savoir quel est le texte qui serait soumis au vote dans le cadre du 49-3, comme la question du texte qui serait utilisé dans le cadre des ordonnances, sont des questions absolument décisives pour le gouvernement.
Comment, à votre avis, Blanche Le Ridon, Raphaël Yorca, se dessine, redessine ou s'accentue le clivage politique à l'aune de ce budget? On a beaucoup parlé de LR, jusqu'à la gauche de Europe Écologie Les Verts, mais les deux autres forces très stables, qui elles ne participent pas du tout et votent contre absolument tous les amendements, enfin en tout cas s'opposent à ces budgets-là, la France Insoumise et le RN, semblent aussi peut-être profiter d'un sentiment à l'extérieur qu'on peut entendre dans le pays, hein, à l'extérieur du Palais Bourbon, qui ne comprend pas forcément ce spectacle donné. Est-ce qu'il y a comme ça une forme de dégagisme des deux extrêmes qui se resserre à l'intérieur du Palais Bourbon? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'on peut faire cette lecture-là, Blanche Le Ridon?
Moi, je voudrais filer la métaphore très intéressante que nous a proposée Raphaël tout à l'heure sur les écrivains myopes et les écrivains presbytes. On a le sentiment, parce que vous avez oublié cette dimension-là des pathologies de l'œil, qu'une partie de la classe politique est frappé d'une forme d'astigmatisme. C'est quoi l'astigmatisme ? C'est le fait, je le sais d'autant mieux que j'en suis moi-même affectée, de voir flou, à la fois de très près et aussi de très loin.
Pas dans vos analyses, je vous rassure.
Et non, mais c'est assez frappant. À la fois, je pense, et c'est ça qui différencie le budget de l'État du budget de la Sécurité sociale, c'est que dans le budget de la Sécurité sociale, vous aviez un certain nombre de marqueurs un peu symboliques qui faisaient que les Français voyaient à peu près de quoi on discute. Le budget de l'hôpital, et puis évidemment cette question de la suspension de la réforme des retraites qui rattachait cet examen budgétaire-là à des choses qui étaient très concrètes pour le projet de loi de finances générale. Et je pense que beaucoup, y compris des commentateurs, sont frappés de ce même syndrome. On a énormément de mal à savoir aujourd'hui ce qu'il reste dedans, quels sont les vrais éléments, les mesures qui continuent à faire dissensus et dans quelle direction on va. Et d'ailleurs, le Premier ministre lui-même a reconnu que ce budget déplairait à l'ensemble et que lui-même, il était convaincu qu'il ne le satisferait pas, ce qui est quand même un peu étonnant pour un chef du gouvernement. Et donc, il y a ce sentiment de flou qui traverse à la fois l'exercice budgétaire, mais aussi les positionnements de ce bloc central, comme vous venez de le décrire. Et les seuls qui ne sont pas frappés de cet astigmatisme-là, pardon, j'aurais pas dû m'embarquer dans cette analogie, parce que le mot est pas évident à prononcer, eh ben, ce sont effectivement les deux extrêmes, qui, eux, sont d'une clarté et ont une vision, on ne peut plus fine et claire et précise, sur leurs intentions et sur leur positionnement. Et effectivement, ça se voit aussi dans l'opinion, puisque vous avez d'un côté un RN qui continue à caracoler en tête de sondage, dont évidemment il faut les prendre avec une immense prudence à un an et demi de l'élection présidentielle, mais qui raffermissent leur base et poursuivent leur ancrage dans l'opinion. Et puis une France insoumise qui aussi, du fait de sa continuité, sa cohérence depuis le début, son appel à la fois au retour aux urnes, que ce soit par une nouvelle dissolution ou la démission du président de la République, jouit d'une certaine lisibilité, en tout cas dans l'opinion, qui, je pense, lui est favorable. Et cette lisibilité, c'est vrai qu'elle ne se trouve que du côté de la France insoumise et du Rassemblement national.
Raphaël Yorca, et peut-être pour ajouter deux éléments du débat, j'ai trouvé très intéressante une analyse dans Le Monde ce week-end, avec le mot de Denis Barranger, professeur de droit, que vous avez sans doute lu, qui parle d'une coalition anti-dissolution, parce qu'il faudrait peut-être pas négliger non plus les intérêts partisans de tous ces groupes qui peut-être s'allient à Sébastien Lecornu parce qu'ils voudraient éviter le pire dans les urnes.
Alors pour ma part, je crois qu'il y a Raphaël une question qui est très importante, qui est que retiendra l'opinion de tout ça ? Et je crois que la question est importante non pas en elle-même, mais parce que je crois qu'elle a déterminé en grande partie le positionnement des uns et des autres dans cette semaine parlementaire. Et je crois qu'on pourrait comme ça en dessiner une sorte de typologie. Il y a d'abord ceux, et c'est une façon de répondre à votre première question Astrid, qui sont convaincus que quoi qu'il advienne, les Français regardent de toute façon tout ça de très loin, que c'est du cirque, c'est un spectacle, et que par conséquent, il n'y a aucun intérêt à investir trop d'énergie dans les discussions parlementaires. Tout ça, c'est une vision de l'opinion publique défendue par, qui était une vision par ailleurs farouchement anti-parlementaire, qui est celle du RN et du LFI. Et donc le résultat, assez logique, c'est effectivement une opposition ferme et qui ferme la porte à toute forme de compromis. À droite, il me semble que la question est différente. On se divise pour savoir si les Français auront la mémoire courte ou la mémoire longue. Du côté de Laurent Wauquiez, on parie qu'elle sera courte et qu'on oubliera vite le soutien au moins partiel du groupe LR qui a voté aux côtés des députés socialistes, alors que du côté de Bruno Retailleau, on parie que les électeurs LR ne pardonneront pas d'avoir siégé aux côtés de ces méchants socialistes, et qui d'ailleurs a fait fuiter, c'était dans l'opinion également, le fait que le siège LR était assailli de coups de téléphone de militants LR furieux de la position énoncée par Laurent Wauquiez. Au centre, il me semble que la question tourne plutôt autour de savoir s'il valait mieux favoriser la cohérence idéologique ou la stabilité institutionnelle. Donc là, on voit bien le positionnement par rapport à une vision de l'opinion publique. Est-ce qu'on favorise la stabilité institutionnelle, c'était plutôt du côté de Gabriel Attal, ou est-ce que c'est la cohérence idéologique que les Français, in fine, favoriseront, c'était plutôt Édouard Philippe. Et je finis mon petit tour par la gauche. Il me semble que du côté de la gauche, la question était davantage de vérifier la validité du proverbe « un tien vaut mieux que deux tu l'auras ». J'ai été très frappé de voir que Boris Vallot, dans Le Monde, a estimé que l'opinion lui saura gré d'avoir, je cite, nettoyé le musée des horreurs, voilà, et socialiste. Que du côté, absolument, patron du groupe socialiste à l'Assemblée, que du côté de Marine Tondelier, elle avait justifié son volte-face dont on parlait tout à l'heure en disant que les Français en souffrance ne pouvaient pas se payer le luxe d'attendre le grand soir. Donc je trouve que c'est vraiment un cas d'école de la façon dont les états-majors anticipent les mouvements d'opinion pour peut-être se positionner les uns par rapport aux autres.
D'un mot, Baptiste Roger Lacan.
Maintenant, c'est intéressant cette idée de coalition anti-dissolution. C'est vrai, effectivement, c'est la logique de la dissolution d'ailleurs. C'est une manière de rationaliser le Parlement en mettant les appareils partisans face à leurs responsabilités. C'est-à-dire que si, à un certain moment, ils s'opposent trop à ce que veut l'exécutif, ils sautent. Et comme la logique d'un parti politique, c'est aussi de gagner des élections et de récompenser les gens qui militent en leur donnant des postes, la menace de la dissolution, elle pèse lourd. Mais il ne faut pas oublier par ailleurs que on est dans une situation qui est très singulière, c'est-à-dire que il y a eu une dissolution qui a eu lieu il y a 2 ans, qui ne s'est pas bien passée pour l'exécutif, et qu'il faut faire attention à la répétition des dissolutions. C'est une arme, c'est un peu un couteau sans manche, la dissolution. Ça peut effectivement vous servir. En l'occurrence, quand on regarde, les 2 dernières qui ont lieu en France se sont retournées contre l'exécutif. Une nouvelle dissolution pourrait aussi éclater à la figure du gouvernement. Et donc, je pense que on voit bien qu'on est dans une sorte de zone où ce bloc des partis qui ne veulent pas effectivement retourner à une élection essaye de trouver des solutions, mais le gouvernement, de son côté, n'a aucun intérêt. Et l'exécutif, on peut essayer de... Régulièrement, il y a des articles qui sortent sur les envies d'Emmanuel Macron de gouverner avec le RN, etc. Bon, on n'en sait strictement rien. Pour l'instant, une nouvelle dissolution serait surtout très dangereuse pour la fin du mandat d'Emmanuel Macron. Et juste une chose, peut-être, sur l'attitude du RN, je ne parle pas de la France Insoumise, je connais trop mal la gauche radicale, mais sur l'extrême droite, je connais un petit peu. Je pense que là, on se retrouve à nouveau dans l'éternelle valse-hésitation quand même du RN depuis 2022, c'est-à-dire que ça fait 3 ans qu'ils hésitent entre la stratégie dite de la cravate et celle d'une stratégie plus tribunicienne. Il y a eu un moment où ils ont cherché à jouer le jeu de la responsabilité, le jeu des votes tactiques pour montrer qu'ils étaient un parti avec lequel on pouvait compter, qui était capable de fonctionner comme un parti de gouvernement, donc qui en un sens, c'était complètement normalisé. En réalité, on voit que depuis 6 mois, ils rebasculent vers une logique tribunicienne. Effectivement, je pense, en pariant sur le fait que leur électorat veut du sang, et donc que tout compromis avec les autres partis de gouvernement, avec les partis de gouvernement, sera vécu comme une compromission. Reste à savoir si ce pari sera payant.
France Culture, l'esprit public, Astrid de Villene.
Vous écoutez France Culture, nous sommes toujours en compagnie du constitutionnaliste Julien Jeannet, de l'essayiste Raphaël Yorca, de l'historien qu'on vient d'entendre Baptiste Roger Lacan et de Blanche Le Ridon, la directrice éditoriale de l'Institut Montaigne. Nous venons d'évoquer les 2 budgets 2026 dont on devrait finalement avoir l'issue cette semaine qui arrive, et nous abordons bien entendu à l'aune de ces budgets la reconfiguration politique en vue de 2027.
Pas plus que je n'ai accepté dans le passé d'alliance avec le Front National, et ceci quel qu'en soit le prix politique. Pas plus que je ne l'ai accepté dans le passé, je n'accepterai demain de débat avec son représentant. Je ne peux pas accepter la banalisation de l'intolérance et de la haine.
Jacques Chirac, le 23 avril 2002, le président sortant qualifié face à Jean-Marie Le Pen au second tour de la présidentielle, refuse le débat de l'entre-deux-tours et l'emporte au second avec 82,2% face à Jean-Marie Le Pen, 17,8%. Un extrait qui a beaucoup circulé, mis en ligne notamment sur le site de l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, et qui nous fait le lien avec cette sortie fracassante, le journal d'un prisonnier de Nicolas Sarkozy, récit de prison, de ces 20 jours de prison, et dans lequel on a beaucoup commenté cette semaine, et j'aimerais vous entendre tous les quatre sur ce sujet, son échange téléphonique qu'il rapporte avec Marine Le Pen. Marine Le Pen, votre voix porte sur l'électorat de la droite populaire, vous associerez-vous à un quelconque front républicain ? Réponse de Nicolas Sarkozy dans son livre, non, et de surcroît je l'assumerai en prenant le moment venu une position publique, et il ajoute, le chemin de la reconstruction de la droite ne pourra passer que par l'esprit de rassemblement le plus large possible, sans exclusive et sans anathème. Comment avez-vous entendu, reçu, analysé les uns et les autres cet échange et ce livre? Et puis Baptiste Roger Lacan, puisque vous venez de faire paraître cette nouvelle histoire de l'extrême droite, est-ce une rupture historique à vos yeux pour la droite républicaine?
Alors, oui, quand même, même s'il faut la nuancer. C'est-à-dire que, oui, dans la mesure où Nicolas Sarkozy est issu de la droite post-gaulliste. Hein, il est trop jeune pour avoir vraiment fait partie de ce qu'on appelle le gaullisme. Il appartient au mouvement post-gaulliste. Il a été militant du RPR pendant toute sa vie, puis à l'UMP, dont il a été même l'un des présidents. Et effectivement, l'une des singularités en Europe, hein, de la relation entre la droite et l'extrême droite dans le cas français, c'est qu'il y a eu une logique qui a largement prévalu pendant un demi-siècle de cordon sanitaire et qui s'explique par la singularité du gaullisme dans le champ politique français, puisque c'est un mouvement politique qui, à deux reprises, s'est retrouvé avec, comme adversaire principal, l'extrême droite. En 1940, évidemment, à partir du moment où le général de Gaulle a fait le choix de refuser l'armistice et de continuer le combat, et donc de devenir un adversaire du régime de Vichy. Et puis pendant la guerre d'Algérie, où à partir du retournement de la politique algérienne du général de Gaulle, il se retrouve à s'opposer, alors, en plus à des gens qui venaient de Vichy, et puis parfois d'anciens soutiens à lui, qui ont considéré que cette trahison était colossale, et que, d'ailleurs qu'elle méritait la mort de Gaulle, hein, qui a été la cible de plusieurs attentats. Donc il y a eu, pendant, jusqu'au début des années 1980, un mur entre la nébuleuse de l'extrême droite et les gaullistes, un mur qui était d'ailleurs beaucoup moins net, par exemple, entre l'UDF et les forces qui soutenaient Giscard d'Estaing et la nébuleuse d'extrême droite, où il y a eu beaucoup plus de porosité. Ce cordon sanitaire, il a été renforcé à la fin des années 1980, à un moment où il y a eu des débats internes au RPR, qui existaient aussi au sein de l'UDF, pour savoir s'il ne fallait pas chercher à faire des alliances avec le Front National, qui à ce moment-là était entre 10 et 15% des voix, pour aller reconstituer un bloc de droite et d'extrême droite qui permettrait de l'emporter face à François Mitterrand. Ces projets, qui étaient notamment défendus par des figures comme Charles Pasqua, ont complètement avorté en 1987, quand Jean-Marie Le Pen a fait sa déclaration sur les chambres à gaz comme un point de détail de la Seconde Guerre mondiale, qui a révélé au grand jour la culture vichyste, négationniste du Front National, et qui a poussé Jacques Chirac à définitivement faire tomber un mur entre son parti, suivi par l'UDF, donc entre voilà, les deux partis de la droite de gouvernement, et le Front National. Ça, c'est pour le principe, ça, c'est une logique de Front Républicain qui, effectivement, va commencer à s'imposer, qui a un héritage, une histoire qui est très longue, qui est l'héritière des stratégies de concentration républicaine sous la Troisième République, où les forces républicaine modérée et radicale était capable, notamment au début de la Troisième République, de s'unir, notamment par des logiques de désistement entre les deux tours législatifs, quand il y avait la menace que des partis qui mettaient en question la nature même du régime, la nature républicaine du régime, arrivent au pouvoir. Et cette logique de Front Républicain, elle va prévaloir, on a tous grandi avec dans les années 90 et au début des années 2000. Une fois qu'on a dit ça, et ça, c'est notamment Nicolas Lebourg qui le montre très bien, la logique de Front Républicain, elle n'a jamais été parfaite à droite. Il y a toujours eu des transgressions. Il y a toujours eu des transgressions qui dérivaient de logiques opportunistes. C'est-à-dire que quand, dans une situation donnée, en fait, il y avait une vraie menace sur la capacité de la droite à l'emporter, il y a eu des choix qui ont été faits. Certains ont choisi, et ça a été le cas par exemple de Jacques Chirac, hein, de continuer à maintenir ce cordon. D'autres figures de droite ont parfois cherché des accommodements avec l'extrême droite, ça c'est la première chose, et à partir du début des années 2010, pour le coup, à partir du moment où l'UMP a commencé à perdre la main, a commencé à, en réalité, à partir de la fin du mandat de Nicolas Sarkozy, a commencé à perdre des élections, on a vu que la logique de Front Républicain a commencé à se fissurer, puisque dès les cantonales de 2011, les dirigeants du parti appellent au ni-ni, donc ni PS, ni RN, ni FN d'ailleurs à l'époque, au second tour, et que cette logique de ni-ni, elle va se renforcer jusqu'à ce qu'il y a quelques mois, on voit Bruno Retailleau expliquer qu'entre un candidat PS et un candidat UDR, donc le parti d'Éric Ciotti, en plus des anciens félons des Républicains, il fallait voter UDR contre le PS, faire absolument barrage à la gauche. En réalité, le Front avait sauté. On parle du président des LR qui, dans l'appareil interne, a beaucoup plus de pouvoir que n'en a, même s'il est fragilisé, que n'en a Nicolas Sarkozy. Le truc, c'est que, et c'est peut-être ça qui est le plus intéressant dans la séquence, c'est qu'on se rend compte qu'alors même que Nicolas Sarkozy est depuis des années très fragilisé au sein de son ancien parti politique, que ses déclarations en faveur d'Emmanuel Macron en 2022 ont été très mal reçues, parce qu'avant de proclamer la nécessité de faire l'union de la droite et l'extrême droite, il y a 3 ans, il disait qu'il fallait faire l'union entre la droite et le centre. Donc, on voit que Sarkozy est plutôt fragilisé à l'intérieur de son parti, et en même temps, on se rend compte de la puissance qu'il occupe encore au sein du champ médiatique, et notamment au sein de la droite. On voit que, par une déclaration dans un livre dont on pourra peut-être discuter de la qualité après, mais qui est contestable, il arrive à ouvrir complètement un débat et effectivement peut-être achever définitivement, je sais que j'avais dit il y a quelques mois quand Bruno Retailleau est arrivé à la tête de LR, mais achever complètement la mort en fait du gaullisme et de la tradition gaulliste à droite.
Achever la mort du gaullisme, Julien Jeannet.
Alors j'ai lu en détail cet ouvrage de Nicolas Sarkozy, dont on aura mardi les premiers chiffres de vente, mais il est pour l'instant le premier sur une plateforme bien connue de vente en ligne d'ouvrages, donc on peut penser que les Français lui portent un intérêt. Alors c'est un livre qui a été tourné en ridicule sur les réseaux sociaux ces derniers jours, sans doute pour de très bonnes raisons à différents égards. On y voit une mise en scène grandiloquente d'un événement perçu comme minime, des comparaisons avec Edmond Dantès, vous en avez parlé, avec Alfred Dreyfus qui font pour le moins sourire, une scénarisation jusqu'au grotesque de gestes simples au motif qu'ils ont été accomplis dans un cadre carcéral. On constate un style assez simpliste, on sent que le texte a été rapidement écrit, assez peu relu. Il y a des scènes qui sont répétées plusieurs fois, des mots qui apparaissent plusieurs fois dans une page. On y voit des leçons de vie très générales, des formules un peu creuses. Et puis un contraste entre le courage et la vertu affichés par l'auteur, une volonté d'affronter son destin, le refus des traitements de faveur d'un côté et puis de l'autre, la conscience apparemment assez limitée des très nombreux privilèges dont il semble bénéficier dans le cadre de cette expérience carcérale, en dépit de quelques clauses de style pour afficher le contraire. On aurait tort néanmoins, à mon sens, de s'arrêter à cette première lecture. En effet, l'ouvrage n'est pas dénué d'intérêt, ne serait-ce que parce qu'il s'agit, et c'est un événement assez rare, d'un ouvrage portant sur une expérience d'un ancien président de la République amené à connaître la prison. Je pourrais formuler trois remarques à cet égard. La première, c'est qu'on a connu tout d'abord pires ouvrages de responsables politiques. La structure est correctement construite, on va heure à heure depuis le délibéré jusqu'à la libération avec des anamnèses ou des flashbacks de manière régulière. Le texte a de quoi nourrir la chronique politique, on y voit des coups de griffe à l'endroit d'Emmanuel Macron, de Mediapart, de ses opposants politiques, de LRs infidèles ou qui n'ont pas été suffisamment présents pendant cette période. On a d'ailleurs une sorte d'impression de fonctionnement en clan autour de Nicolas Sarkozy qui est assez marquante. On y voit aussi des marques d'affection à l'égard de Brigitte Macron, des surveillants des prisons, du soutien populaire qui est une manière indirectement de s'envoyer des fleurs à lui-même. Les Français m'aiment et me soutiennent. Et puis, on y trouve aussi quelques réflexions sur l'exercice du pouvoir, sur sa verticalité, sur les leçons de vie d'un ancien président de la République qui ne sont pas sans intérêt. Il y a plusieurs passages où on ne s'ennuie absolument pas. Deuxième raison de s'intéresser à l'ouvrage, il semble placé au service de différents projets, et tout d'abord d'un projet politique. Il y a sans doute des passages où s'expriment des sentiments dont on n'a pas de raison de douter de leur sincérité ou de leur authenticité sur sa famille, sur la violence du contexte perçu entre sa vie antérieure d'ancien président de la République et une vie en prison. Néanmoins, on est frappé par une volonté de convaincre qui traverse tout l'ouvrage. Il passe son temps à essayer de prendre le lecteur par la main en lui disant « On retrouve le Nicolas Sarkozy de 2007 pendant sa campagne, qui avait été très efficace. On retrouve le petit français au sang mêlé à différents égards. On retrouve le « j'ai changé », sa volonté de mettre en avant jusqu'à la chute, la dernière phrase de l'ouvrage, « À la santé, j'ai recommencé ma vie », l'idée de mettre en avant une sorte de born again, avec une victimisation, l'intime placé au service d'une stratégie de communication. Et puis il y a aussi un projet sans doute judiciaire derrière. Il critique les juges, leur caractère politique, le syndicalisme chez les juges. Il reste quand même habile à l'égard des futurs juges de la cour d'appel qui auront à statuer sur son cas. Néanmoins, on se pose la question en fermant l'ouvrage, est-ce que finalement il s'agit d'une volonté de revenir en politique ? On croit que Nicolas Sarkozy a des activités dans les affaires aujourd'hui très prospères, donc ça permettrait d'en douter. Et en même temps, on sait à quel point est-ce que les anciens présidents de la République n'enlèvent complètement de leur esprit jamais la perspective d'un retour au pouvoir. Et puis rapidement, la dernière raison de s'intéresser à cet ouvrage, je trouve, c'est que c'est un objet politique qui est révélateur de tendances de fond. On l'a noté déjà dans les médias, les clins d'œil à l'empire de Vincent Bolloré médiatique sont très réguliers, sont nombreux. Alors on sait que Bolloré est un ami ancien Nicolas Sarkozy, qu'il avait accueilli après son élection, avant son virage politique et médiatique que l'on connaît ces dernières années. Le deuxième élément qui est frappant, c'est l'affichage d'une religiosité tout au long du livre, avec des prières, avec des échanges avec un aumônier, avec in fine une référence à Lourdes, ce qui soulève des questions. Est-ce qu'il s'agit d'une pure stratégie ou est-ce qu'en réalité il y a quelque chose d'authentique là-dedans? Et enfin, le troisième aspect dont on a parlé avec Baptiste à l'instant, à savoir quand même une rupture dans l'ordre d'une forme de dédiabolisation du Rassemblement National, ce qui constitue une véritable rupture pour un ancien président de la République issu de ce camp-là. Le refus du Front Républicain, un hommage à plusieurs leaders du RN, Marine Le Pen, Sébastien Chenu, et donc une rupture totale avec la position que Sarkozy avait il y a 20 ans. Ce sont des propos inédits avec potentiellement de très grandes conséquences assez graves. grave et ça mérite évidemment d'être noté. Donc dernier élément, la littérature carcérale est assez riche. On a eu de grands textes, Blanqui, Gramsci, Jean Zay, Martin Luther King, Nelson Mandela. Il n'est pas certain que cet ouvrage mérite d'être placé au sein de ce cercle. Néanmoins, il n'est pas dénué d'intérêt.
Blanche Laurie, donc comprenez-vous les raisons de ce nouveau positionnement politique ? D'ailleurs, est-il nouveau ? En tout cas, il est on ne peut plus clair.
Alors moi, je relativiserais sa nouveauté. Si on revient effectivement à la campagne de 2007, parce que c'est évidemment à ça qu'on songe directement. Pourquoi ? Parce qu'en 2007, durant toute sa campagne, Nicolas Sarkozy était allé volontairement sur les terres des Le Pen à ce moment-là. Et se présentait déjà comme un rempart très paradoxal face à une extrême droite dont il reprenait déjà un certain nombre de discours dans sa rhétorique. On se souvient d'un certain nombre de sorties durant sa campagne. Mais ce qu'on oublie aussi parfois, c'est que Jean-Marie Le Pen, pendant cette campagne-là, il avait déjà amorcé une forme de dédiabolisation. Souvenez-vous, où est-ce qu'il avait lancé sa campagne ? C'était en 2006, en septembre, à Valmy. Valmy n'est pas du tout un symbole auquel le Rassemblement National, dans son histoire, s'est souvent rattaché. Et c'est plutôt devant Jeanne d'Arc qu'il réunissait ces troupes-là. Et d'ailleurs, toute une partie du parti lui avait reproché à l'époque de récupérer ce symbole qui appartient beaucoup plus à l'histoire des Républicains qu'à l'histoire plus controversée du parti qu'il dirigeait à l'époque. Donc là, on serait en train de revivre un espèce de 2007 inversé où vous avez une droite républicaine qui se rapproche de l'extrême droite et de l'autre côté, une extrême droite qui tente à nouveau, qui poursuit sa stratégie assumée, méticuleusement menée depuis quelques années de dédiabolisation. Sauf que là, le vainqueur ne sera plus celui de 2007, mais risque d'être le Rassemblement National, ancien Front National. Julien Genet et Baptiste Rogier-Lacan ont vraiment très très bien rappelé à la fois l'exégèse très fine du livre de Nicolas Sarkozy et Baptiste, l'histoire de cette union des droites et des remparts qui sont ou non sauter. Moi, pour vous répondre, je voudrais aussi replacer la séquence qu'on est en train de vivre dans le contexte international et européen. Cette union des droites, elle est en train de se faire de manière très concrète au sein du Parlement européen. Vous savez que normalement, le PPE, donc le Parti populaire européen qui est majoritaire au Parlement, a toujours eu tendance à s'allier avec les sociodémocrates et puis à aller chercher des voix au sein de Renew ou des Verts. Et là, ça fait depuis quelques semaines que les votes, et notamment sur la politique migratoire ou sur les politiques environnementales, se font avec de nouveaux alliés que sont les Patriotes pour l'Europe, les conservateurs et réformistes européens ou le groupe de l'Europe des Nations Souveraines, soit les groupes de Giorgia Meloni, de Viktor Orban, de l'AFD de Madame Weidel. Donc on voit que cette union des droites, elle se joue aussi au niveau européen et que ça a une incidence sur la façon dont nos politiques se comportent aussi en France. Et puis aussi, moi, il y a un événement quand même de cette semaine qui est indissociable, selon moi, de la discussion qu'on est en train d'avoir. C'est la publication par la Maison Blanche du document sur la stratégie nationale américaine. Et ce chapitre 3 qui nous est consacré, alors avec une rhétorique très paradoxale, puisque le chapitre qui est dédié à l'Europe s'intitule « Promouvoir la grandeur de l'Europe », affirme que l'Europe reste stratégiquement et culturellement vitale pour les États-Unis. Mais derrière cette apparence très flatteuse, il y a bien autre chose, puisque ce que décrit Donald Trump, c'est le déclin civilisationnel de l'Europe, lié notamment à son incapacité à gérer les flux migratoires et à sa porosité avec un certain nombre d'autres cultures qui lui ferait perdre son essence et donc la menacerait de déclin. Et le corollaire de tout ça, c'est quoi ? Eh bien, c'est que Donald Trump veut s'impliquer aussi dans l'avenir démocratique des Européens. Il le dit, la diplomatie américaine doit continuer à défendre la démocratie authentique, je cite, la liberté d'expression et la célébration sans complexe du caractère et de l'histoire propre à chaque nation européenne. Les États-Unis encouragent leurs alliés politiques en Europe à promouvoir ce renouveau spirituel et l'influente croissance des partis patriotiques européens est en effet source d'un grand optimisme. Donc il y a aussi ça qui va jouer indéniablement dans la suite des aventures politiques et notamment à droite avec, on peut l'imaginer, le regime change ou en tout cas l'ingérence américaine démocratique concernait moins les Européens, on était moins habitués à ça, mais il va falloir désormais s'habituer à cette intrusion des Américains dans la politique électorale française, avec une faveur à l'égard des camps qui se rapprochent du camp MAGA, et une conscience aussi, deuxième élément qui m'a marqué moi cette semaine, c'est Politico. Donc ce que Politico a aussi eu une interview exclusive de Donald Trump où il a peu ou prou poursuivi les éléments qui étaient déjà développés dans la stratégie de sécurité nationale américaine. Et Politico, suite à cette interview, a fait un sondage auprès de 10 000 Européens, et notamment au Royaume-Uni, en Allemagne et en France, pour savoir si, selon eux, leur avenir était davantage lié à leurs élections nationale ou à l'élection de Donald Trump. Et partout, on répond massivement que c'est l'élection de Donald Trump qui définit l'avenir de l'Europe et de leur pays. Donc là, on voit bien qu'au-delà de ce qu'on peut observer de façon très micro dans les alliances qui sont en train de se faire, il y a aussi ce contexte international, européen d'une part, et puis l'influence américaine d'autre part.
Vous réunissez les presbytes, ceux qui ne sont ni presbytes ni myopes, voilà. Blanche Loridon. Raphaël Yorka, votre avis sur cet événement littéraire?
Oui, je reviens sur Nicolas Sarkozy. Blanche insistait sur une forme de continuité. Je voudrais pour ma part revenir sur la rupture. Parce que je voudrais défendre l'idée selon laquelle Sarkozy est en train de trahir le sarkozisme. Voilà. Donc je voudrais me placer à l'échelle du sarkozisme lui-même. Moi, j'y vois une triple trahison. La première trahison, c'était le son que vous avez diffusé tout à l'heure, le son de Jacques Chirac. C'est une trahison de sa famille politique. La droite républicaine, qui effectivement, et Baptiste le rappelait, qui était héritière du gaullisme et qui, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, s'était fait la promesse de ne jamais transiger avec l'extrême droite. On se rappelle peut-être du testament politique de Jacques Chirac, qui en 2007 avait dit la chose suivante: « Ne composez jamais avec l'extrémisme qui, dans notre histoire, a failli nous conduire à l'abîme. » La deuxième trahison, c'est peut-être ses propres convictions, à lui, Nicolas Sarkozy, qu'il a répété tout au long d'une carrière politique exceptionnelle, parce qu'elle s'étire sur plus de 40 ans. Et j'ai cherché quelques déclarations qui sont assez marquantes. Hein. Lors des régionales d'avril 1998, ce même Nicolas Sarkozy disait « Ne participer à aucun exécutif qui soit l'otage des dirigeants du Front National. » En 2006, à Nîmes, il déclare « Les Français dans l'impasse du FN, je veux les convaincre de revenir dans le giron républicain. » Et puis Julien y a fait mention brièvement tout à l'heure. En avril 2007, on se rappelle de sa déclaration de campagne où il disait effectivement « Je suis un Français de sang mêlé qui pense que l'on est Français en proportion de l'amour que l'on porte à la France. » Bon, donc c'est tout ce testament politique qu'il a lui-même construit et qui, sous couvert de vouloir sauver la droite, est en train de transiger avec un parti qui, comme rappelons-le, propose la préférence nationale. Et puis, peut-être dernier élément, il trahit ses propres électeurs. Parce que j'ai beaucoup entendu cette semaine l'idée selon laquelle, au fond, les électeurs Sarkozy de 2007 auraient déjà basculé du côté de Marine Le Pen. Alors, je suis allé regarder des instituts de sondage et des enquêtes qui ont retracé ce qu'on appelle l'évolution des électeurs d'une élection à une autre. Et je suis tombé sur une enquête IFOP de février 2022 qui s'est penché sur le parcours des électeurs de droite et du FN entre 2002 et 2022. Alors, c'était une enquête de février 22 qui était basée sur les intentions de vote de l'élection présidentielle de 2022. Et alors, j'ai découvert qu'en 2022, les électeurs de Nicolas Sarkozy du premier tour 2007 se répartissaient de la façon suivante. 34% pour Valérie Pécresse, 32% pour Emmanuel Macron, 15% pour Éric Zemmour et seulement 9% pour Marine Le Pen. Donc, ce qui voulait bien dire que, en tout cas, en février 2022, les choses ont peut-être bougé en 3 ans.
Les fameux 3 blocs qu'on retrouve dans les votes à l'Assemblée actuellement.
Que l'on retrouve, effectivement.
Oui, mais on a quand même 82% des électeurs LR qui sont favorables à l'Union. Ça, c'est un autre... C'est pas exact. Effectivement, ils ne vont pas voter Marine Le Pen, mais ils sont favorables à une Union...
Ça dépend des sondages, parce que j'ai déjà vu 50% dans un Odoxa Figaro.
Oui, en tout cas, il y a toujours une majorité parmi les différents sondages.
Raphaël Yorka.
La conclusion très rapide, c'est que pour moi, le sarkozisme aurait pu rester une très belle page de l'histoire de la droite républicaine, et je crois qu'il est en train, Nicolas Sarkozy, en train d'écrire le chapitre de trop.
J'aimerais qu'on écoute une chanson pour terminer.
Patrick, tu voudrais pas être président de la République ?
Ah non, certainement pas. Mais si je l'étais, il y aurait du bonheur, tous les jours du bonheur, toutes les nuits du bonheur, des chansons, il y aurait du bonheur, un pays de bonheur où on nous apprendrait d'abord à nous aimer beaucoup plus fort.
Patrick Sébastien, vous l'avez peut-être reconnu, l'un des titres de l'album Patoche Forever en 2024. J'en parle parce que vous, Raphaël Yurka, vous le prenez très au sérieux. Le chanteur a entrepris de relayer la parole des Français par un mouvement nommé « Ça suffit ». Il a ouvert une boîte Gmail pour recueillir les idées des Français et ainsi peser sur la prochaine présidentielle dans ce qu'il présente comme un chantage démocratique aux prochains finalistes. Raphaël Yurka, vous êtes en train de préparer une étude pour le journal Le Grand Continent. Et vous dites, si je vous ai bien lu, on passe de la fenêtre au salon d'Overton avec ce phénomène. Et peut-être si on a le temps, en un mot, hein, pour ceux qui voudraient réagir autour de la table, il a par exemple son nez de clown hein, sur son compte Instagram. On a beaucoup parlé des clowns à l'international qui sont arrivés aux plus hautes fonctions de l'État. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce phénomène? Faut-il le prendre au sérieux comme le pense Raphaël Yurka? En quelques mots, je suis désolée, oui, on arrive bientôt à vos coups de cœur.
Effectivement, c'est pour moi une figure de l'interrègne, qui est une figure, qui est une métaphore de Gramsci, qui reprenait lui-même un terme du droit politique romain, l'interregnum, hein, qui en fait désigne ce moment où le monde ancien est en train de s'effondrer, le monde nouveau n'éclore pas, et dans ce clair-obscur, disait Gramsci, surgissent les monstres. Ce qui est très intéressant dans la figure de Patrick Sébastien, c'est qu'effectivement, dans le discours, on pourrait s'attendre à n'y voir qu'une énième émanation, une énième figure populiste. En fait, il articule des choses sur des plans extrêmement contradictoires et divergents. C'est une sorte d'humaniste dégagiste. C'est un libertin sécuritaire. Et c'est un boomer festif. Donc on a vraiment des espèces d'une figure assez, assez paradoxale qui articule comme ça des choses très dissonantes les unes des autres. Mais qui, et c'est le point important de cette figure du salon d'Overton, il n'est pas celui qui transgresse, c'est-à-dire qui étend cette fenêtre du disciple et de l'acceptable dans le débat public. Le salon Overton, c'est le moment où au fond, lui, il s'assoit. Ces idées extrêmes, on s'y assoit, on discute, il y a une petite table, des rideaux, et sous couvert d'être le représentant autoproclamé des classes populaires, en réalité, il banalise des dingueries. Et dans les dingueries, moi j'ai lu non seulement Nicolas Sarkozy cette semaine, mais aussi le dernier livre de Patrick Sébastien, Même pas peur. Eh bien, il enchaîne des éléments, par exemple, sur l'effet de blocage, selon lequel les élites en France, il y aurait une coalition entre les médias, l'audiovisuel, le cinéma, les politiques, pour tenir les gens dans la peur et faire en sorte qu'ils ne bougent pas. Donc, sous couvert, effectivement, avec cette esthétique, et on a vu dans le son, très festive, qui attire beaucoup de bons sentiments. Au fond, c'est une figure très attachante et qui fait partie du paysage mental des Français depuis 40 ans. En réalité, il normalise tout un tas d'idées extrêmes et c'est contre ça que j'ai voulu écrire. Effectivement.
Blanche Loridon, très rapidement.
Pour moi, c'est un nom qui vient s'ajouter à la litanie des candidats patentés hors système. Moi, j'y crois pas du tout. Souvenez-vous, il y a quelques mois, c'était Hanouna. On en parlait très sérieusement. Michel-Édouard Leclerc, alors que je me range évidemment dans un tout autre champ politique. Et puis, on se souvient, si on remonte un petit peu plus loin dans le temps, à Bigard, à Yves Montand, à Coluche, qui promettait jusqu'à présent, la France est coupée en deux. Avec moi, elle sera pliée en quatre. Donc, tout ça, à mon avis, même si les Français, dans les sondages se disent, il y a une petite majorité qui se dit pourquoi pas un candidat hors système, mais parce qu'aujourd'hui l'offre politique est peut-être tellement faible que certains se disent qu'ils se réfugieraient dans ce type d'option, mais je pense que ça ne présage absolument pas de leur comportement dans l'urne et que je pense que Patrick Sébastien n'est pas le futur Trump, ni le futur Zelensky, ni le BP Grillo français.
Vous voulez réagir les uns et les autres ou on passe tout de suite à vos coups de cœur? On arrive à la fin de l'émission. On en reparlera peut-être. Merci en tout cas de nous avoir livré en avant-première cette analyse, Raphaël Yurka. Julien Jeannet, vous qui êtes constitutionnaliste, professeur à l'Université de Strasbourg, quel est votre coup de cœur pour nos auditeurs?
Eh bien, c'est un coup de cœur de constitutionnaliste.
Ah, formidable.
C'est un ouvrage écrit par Denis Barranger, que vous avez cité tout à l'heure, et Olivier Beau, intitulé « La dissolution de la Ve République », publié au Petit Matin le 13 novembre 2025. Et c'est une mise en perspective des effets institutionnels de la dissolution de 2024, entre débâcle des systèmes de partis, montée du RN, polarisation des forces politiques, parlementarisme déréglé. On a là une lecture à la fois politique et institutionnelle, nourrie par une connaissance précise de la philosophie politique, du droit constitutionnel, aussi bien en France que dans plusieurs grandes démocraties contemporaines. Alors on parle beaucoup ces derniers temps de questions constitutionnelles, Les constitutionnalistes prennent souvent la parole. Le risque, c'est de faire de la micro-réaction. Et là, on a un vrai ouvrage, c'est-à-dire qui s'inscrit dans une longue tradition de professeurs de droit, en particulier public, en particulier constitutionnel, qui prennent la parole dans le débat public. Et à mon sens, on ne peut que s'en réjouir.
Merci infiniment. Je rappelle qu'on met bien sûr tous vos coups de cœur chaque semaine sur le site pour celles et ceux qui nous demandent régulièrement de les retrouver. Baptiste Roger Lacan, historien, votre dernier livre, Une nouvelle histoire de l'extrême droite aux éditions du Seuil, paru en octobre. Quel est votre coup de cœur? Vous êtes également chargé de recherche à la Fondation Napoléon.
Alors c'est un livre d'histoire, on reste un peu dans nos lignes de nage pour l'instant, qui est sorti il y a une dizaine d'années en français, qui s'appelle Soldat, qui a été écrit par deux historiens, enfin un historien et un sociologue, Harald Welzer et Sanke Neidel, qui sont allemands et qui sont tombés sur une source extraordinaire, des centaines de milliers d'heures d'enregistrement de soldats allemands parlant sans le savoir lorsqu'ils étaient faits prisonniers par les Anglais. Donc ça permet une plongée dans la mécanique de violence de la Wehrmacht que je recommande.
Raphaël Yorka, en une seconde.
Mon coup de cœur, L'école des dictateurs, un roman d'Ignazio Silone qui est paru en 1938, qui a été récemment réédité aux éditions La Lenteur et qui fait la fiction d'un aspirant dictateur américain qui cherche à faire un tour d'Europe pour récolter des conseils sur comment instaurer le fascisme.
Blanche Le Ridon.
Moi, mon coup de cœur, c'est pour une exposition qui est consacrée à l'activité à laquelle je souhaite me livrer allègrement en cette fin d'année. Cette exposition, elle est au musée Marmottan et c'est l'Empire du Sommeil. C'est la façon dont les peintres du 19e et 20e siècle ont représenté le sommeil. Et c'est fascinant, c'est magnifique.
Formidable,
merci. Très belles œuvres. Allez-y, c'est jusqu'au 1er mars.
Merci de terminer avec ce coup de cœur, Blanche Le Ridon, directrice éditoriale de l'Institut Montaigne. Ça nous encourage tous à faire une sieste en ce dimanche. Il est déjà presque midi. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. Nous ferons une émission consacrée à la Chine. À très vite. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous suivre sur toutes les plateformes de podcast L'Esprit Public. À très vite.